C'est ce Referme, ce journal que vous pouvez réécouter à tout moment sur notre site internet françaisfacile.rfi.fr. À demain pour une nouvelle édition.
Radio G.
Topette, du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre Benoît.
Et à l'instar de Mathéo, avant qu'on parte en vacances, je retrouve petit à petit mon état vocal. Mathéo, le tien est totalement revenu, on est bien d'accord.
Et le mien va très très bien, comme tu peux le voir.
Waouh, quelle voix magnifique. C'est toi qui devrais animer finalement en ce moment. Demain, on sera avec le spectacle de La Belle et la Bête qui aura lieu un peu plus tôt que l'année précédente, mais toujours au Plessis Bourré. On va aussi parler d'intelligence artificielle et de photos avec Bruno. Et puis il est venu avec, il sera là avec un invité. Ce soir, on va faire du Game and Biz. On va s'intéresser aux jeux vidéo, à l'entrepreneuriat aussi. On va jouer à FIFA ou à Age of Empires ou encore même à League of Legends entre collègues. Oui, oui, c'est possible. Et puis imaginez même, pourquoi pas négocier un nouveau contrat avec un nouveau partenaire pro autour d'une pizza et puis d'une console d'arcade. Voilà ce que propose Game and Biz. C'est le 11 avril au Centre des Congrès à Angers. Du business, tout est dans le nom, hein. En dehors des cadres un peu sérieux, des fois des clubs entreprises, et faire aussi du team building, donc autour des pizzas et des lanes. Tu sais ce que c'est une lane ou pas, toi, Mathieu?
Et non, mais vas-y, fais ta blague, Pierre-Benoît, tu me l'as dit en antenne.
Non, pas du tout.
Tu vas pas la faire.
Elle restera en antenne.
Je sais pas ce que c'est, en tout cas.
Antoine Galpi, un des fondateurs de l'événement Game and Biz, va tout nous raconter ce soir dans Topette. Topette qui commence, c'est parti, c'est maintenant.
Topette sur le 101.5 avec Pierre-Benoît.
Et Mathéo, il est tranquille, il est light, puisque c'est pas lui qui fait le flash ce soir, c'est Nolwenn qui nous fait un point sur les actus à Angers. Bonsoir Nolwenn.
Bonsoir.
Le Maine-et-Loire en vigilance au cru.
Vous l'avez sûrement remarqué, le niveau de la Loire, la Maine et les cours d'eau ont fortement augmenté ces derniers jours. C'est pour cette raison que Météo France a placé le Maine-et-Loire en vigilance jaune au cru comme 37 autres départements en France. Trois départements ont été placés en vigilance orange et l'Yvonne en vigilance rouge. La Loire en cru avait d'ailleurs surpris certains habitants de Saumur dimanche dernier. Au petit matin, les voitures garées à hauteur du quai Maillot se sont retrouvées sous l'eau. Les sapeurs-pompiers et dépanneuses étaient intervenus pour sortir les véhicules immergés.
Maillot mouillé du coup. Manifestation du secteur médico-social à Angers demain.
Les professionnels du secteur sont appelés à se rassembler ce jeudi sur la place du ralliement à midi. Dans un communiqué, Stéphanie Dupérou, secrétaire du Parti communiste français, se demandait comment s'étonner des difficultés de recrutement quand un éducateur spécialisé à l'aide sociale à l'enfance, dans les années 80, percevait 2,5 fois le SMIC, alors qu'aujourd'hui c'est seulement 100 euros au-dessus du SMIC. Le PCF demande donc des structures adaptées qui permettent une prise en charge globale des jeunes, des services médico-sociaux avec des équipes pluridisciplinaires. Il demande également l'augmentation des dotations des départements pour faire face à l'augmentation du nombre d'enfants confinés.
Nolwenn, on retourne à Saumur, je crois, avec la distillerie Combier.
Et oui, si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, la distillerie Combier à Saumur va ouvrir ses portes aux curieux pour célébrer son 190e anniversaire. De 10h à 18h, les visiteurs pourront découvrir gratuitement l'ensemble des espaces de production de la distillerie à la mise en bouteille. Pour les plus gourmands, une dégustation de cocktails avec ou sans alcool si jamais vous reprenez la route et de fouets seront organisés.
Du beau temps, là il y a du soleil au travers de la fenêtre du studio, mais demain de la pluie toute la journée.
Le temps sera très pluvieux ce jeudi, mais les températures plutôt douces. Le matin il fera 13 degrés et l'après-midi on atteindra les 17. Côté trafic, quelques ralentissements sont à prévoir sur l'A87 dans le sens Angers-Cholet à hauteur d'Écouflant. Le tunnel d'Avrier sera également fermé les nuits du lundi 8 au 11 avril de 20h à 7h. Des routes de secours seront mises en place.
Merci beaucoup Nolwenn, tu restes avec nous bien évidemment pour s'intéresser à notre sujet de ce soir. Mathéo, non, maillot mouillé, le camaillot, c'est non
En fait, je l'avais mais pas trop.
D'accord, bon bah merci, je la retenterai pas la prochaine fois. Allez, on accueille notre invité.
L'invité de Topette sur Radio G.
Moi j'avais trouvé ça drôle en tout cas. Bonsoir Antoine.
Bonsoir.
Antoine Galpi, tu es un des cofondateurs du Game and Biz qui aura donc lieu le 11 avril au Centre des Congrès à Angers. Tout est dans le nom, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. On joue aux jeux vidéo et on fait du business en même temps. Et un petit peu de team building également entre collaborateurs. C'est ça l'objectif, hein, un objectif simple, renforcer son réseau, créer des opportunités pro dans un contexte détendu, favorable à la rencontre, changer aussi son angle de vue peut-être sur des collègues qu'on a à côté de nous au bureau, puis d'un coup on se met à jouer à Age of Empires ou à FIFA, pourquoi pas, FIFA 23 je crois précisément cette année même.
Alors oui, déjà c'est plus FIFA, c'est FC maintenant, parce que Electronic Arts a perdu la licence FIFA. Tout à fait. Alors je rajouterais même, c'est aussi surtout l'occasion de partager une passion commune. Avant tout, c'est elle qui va permettre ce business, ces rencontres. Et puis le jeu principal qui est énormément mis en avant, c'est Counter-Strike. Ça fait pas loin de 30 ans qu'il existe. C'est un jeu qui se joue en deux équipes de 5 qui s'affrontent. Et c'est là, par ce jeu-là notamment, qu'on va venir parler de cohésion d'équipe et de team building.
Ce que je te propose, Antoine, et auditeurs, auditrices, c'est d'entendre des témoignages qu'on peut écouter aussi sur le site internet de Game & Biz.
Je m'appelle Marie, mon pseudo c'est Ashina et je viens jouer pour la Caisse des dépôts. Game & Biz, c'est une grande bouffée de nostalgie. J'avais jamais joué à Counter-Strike par exemple et je le fais avec grand plaisir aujourd'hui et c'est vraiment sympa. C'est très sympa de rencontrer des gens qui partagent la même passion. Moi je pense que Game & Biz, ça peut avoir encore beaucoup de succès et j'espère qu'il y a encore plus de monde qui viendra sur les prochaines éditions.
Ce soir, moi déjà de base, j'adore tout ce qui est ambiance LAN, rencontrer des gens autour de la même envie. Donc là c'est CS parce que c'est mon jeu de cœur. Donc rencontrer des gens qui connaissent pas grand chose mais leur apprendre aussi, voir qu'ils aiment aussi, c'est ça que j'adore en fait ici.
Bon, en tout cas c'est des personnes impliquées qui ont l'air d'être contentes, satisfaites de participer à cet événement. Ça s'entend ne serait-ce qu'au travers de la voix, du business avec autant de sourires. C'est possible, on peut sortir du cadre sérieux des clubs entreprises par exemple. Antoine,
c'était même l'objectif premier de dire tiens, si je fais un rapide historique, hein, moi ça fait 15 ans que j'entreprends, je suis passé par pas mal de groupes, j'ai fait 8 ans au CJD, j'ai fait 4 ans au BNI, et tous ces groupes sont géniaux. La vie d'un entrepreneur sans ça, c'est pas que c'est impossible, mais c'est que ça va être très complexe. Ça permet d'accélérer les choses, de faire des rencontres, de se former, mais s'il y a un mais, c'est que c'est parfois trop sérieux. Et moi, comme je dis toujours, je suis quelqu'un de très taquin, donc j'aime bien faire l'inverse de ce qu'on m'a mis. Donc on a eu l'idée, ça a commencé en 2020 avec Benjamin Tardif, qui lui est le dirigeant de Vidéoflex. On s'est dit tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de disrupter un petit peu ce milieu-là, en venant mettre notre passion commune du jeu vidéo et en disant bah on va mettre le fun devant, mais ça va pas nous empêcher en réalité d'être très sérieux, parce qu'un événement comme ça c'est une grosse logistique, c'est pas loin de 2 tonnes de matériel aujourd'hui à déplacer dans la journée. Mais a priori, oui, on y arrive. On a effectivement, notamment sur cette vidéo-là, on a que des sourires. Et puis pour nous, le meilleur exemple, c'est que quasi tous ceux qui sont venus à la première édition sont revenus à la deuxième et reviennent à la troisième. Et là, maintenant, en fait, on rajoute de nouvelles équipes au fur et à mesure. Donc ouais, c'est super. Enfin, nous, ça nous fait chaud au cœur et puis ça nous motive à continuer.
Et puisque t'es sur l'historique, Antoine, à la base, c'était voilà, on essaye, on voit ce que ça donne, on essaie de réunir d'abord autour d'une passion et ensuite il y a cette notion, dimension business qui bon, elle est assumée bien évidemment, mais d'abord en priorité le fun et puis la passion du jeu vidéo. C'était juste un test au départ et tu parlais le post LinkedIn qui t'a propulsé soudainement là, qui était entêté.
Ah bah c'est ça, c'est-à-dire que quand je dis que je suis taquin, c'est-à-dire qu'on je vais être capable, et Benjamin est pareil, de lancer un projet qui est assez énorme, hein, en se disant on va le faire une seule fois. Et en fait, c'est ça, c'est même pas l'idée de faire un test, c'est vraiment au début, on dit, on le fera une fois et une seule. Sauf que arrive entre-temps le premier article dans la presse, qu'on partage sur nos réseaux sociaux. Alors moi déjà, je suis pas très actif au départ sur LinkedIn, pour la première fois je fais un vrai post où je raconte, et j'ai ma voisine de bureau à WeForge, qui est experte en réseaux sociaux, qui me dit, bon, tu vas faire 1500 vues, et c'est super bien. Ça, c'était les 20 premières minutes. Et en fait, le compteur, au bout d'une semaine, il avait atteint les 15 000 vues. Et puis, on se met surtout, moi et Benjamin, chacun à recevoir des messages privés de gens un peu dans toute la France, certains qu'on connaît pas, qui nous disent, mais votre concept, franchement, c'est on kiffe, il faut venir chez nous. Et effectivement, au départ, on se dit, on va être une asso. Sauf qu'en fait, très rapidement, on se rend compte que on vient de mettre le doigt sur un besoin qu'il va falloir investir. Et qu'à partir de là, le statut associatif qu'on voulait, il va pas tenir. Donc en fait, on va devenir du coup une société par action simplifiée et on va pousser plus loin.
Et tout à l'heure, on parlera du pourquoi finalement il y avait cette demande et pourquoi elle est encore exploitable. Peut-être qu'il y a d'autres voies possibles pour aller proposer cette demande à l'heure où en plus on parle de plus en plus de télétravail. Mais ça, on en parlera tout à l'heure après la pause musicale. Juste avant, les termes, une lane, une free-to-play, networking, celles et ceux qui ne sont pas du
déjà, milieu. Tu peux dire une LAN. t'embêtes pas avec l'accent. LAN, L-A-N, veut dire, c'est l'acronyme informatique de Local Area Network. En gros, réseau local. C'est ce qu'on faisait dans les années 2000, c'est-à-dire qu'Internet était déjà là, mais c'était encore des petites connexions ADSL, et malheureusement pour le jeu vidéo en réseau, ça suffisait pas. Donc ce qu'on faisait le week-end, les passionnés, c'est qu'on démontait le PC, on chargeait la voiture, on faisait entre 5 et 500 kilomètres, moi j'ai fait jusqu'à 800 bornes pour aller faire une LAN, et on se posait tous ensemble dans un garage ou carrément dans un centre des congrès, et on jouait pendant 24, 48 heures. C'était surtout en fait un moment pour rencontrer des gens. C'est-à-dire que le jeu vidéo à ce moment-là arrive dans la vie réelle. Les gens que tu affrontes sur ton écran qui ne sont qu'un pseudo deviennent Mathéo avec un vrai visage. Donc déjà on va faire des rencontres et puis on va aussi pouvoir échanger sur des techniques de jeu et même d'une manière plus large sur notre passion. Moi je me suis fait vraiment des potes que je continue d'avoir, que j'ai rencontrés en LAN. C'était ça vraiment le gros intérêt. C'était d'une, de monter en compétence, deux aussi de se faire des potes avec une passion commune, parce que si on revient 20-25 ans en arrière, c'est toujours pas très simple aujourd'hui pour le jeu vidéo d'être reconnu dans le grand public de tout le monde. Il y a 25 ans, c'était tu disais à tes parents que t'étais fan de jeu, en général, t'avais un abonnement chez le psy qui allait avec. Donc pour nous, c'était très important. Et effectivement, c'est tombé un peu en désuétude avec l'avènement du très haut débit. Et nous, on avait aussi l'idée de se dire, fort certainement du Covid, hein, parce que l'idée vraiment, elle vient pendant le confinement, de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour se réunir, quoi. Et c'est tout ça ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, de faire revivre cet esprit-là, mais au-dessus de tout, comme je disais, c'est de partager une passion et de se rencontrer.
Le Game and Biz, le 11 avril, donc il y a une petite réaction de Nolwenn. Est-ce que tu as bien compris les enjeux de l'événement, ce qui était proposé, et puis ton regard sur cette proposition, justement?
Du coup, j'ai cru comprendre que c'était un événement de base basé sur le jeu vidéo, mais qui sert aussi dans le business, l'emploi.
Ouais, parce qu'en fait, si tu regardes aujourd'hui, alors je vais vraiment parler sur le cas de Counter-Strike, hein, ce jeu en deux équipes de cinq. Il y a des situations que tu vas vivre dans le jeu qui sont en fait des situations que tu vis dans la vie réelle. À un moment, pour gagner à Counter-Strike, il suffit pas d'être tout seul à être bon. Il suffit pas non plus que toute l'équipe soit bonne. La chose primordiale, c'est d'être capable de parler, d'échanger, d'être conscient des forces et faiblesses de chacun, d'être capable de bâtir une stratégie commune pour aller chercher la gagne. Et en fait, à ce moment-là, tu as un parallèle évident avec le monde de l'entreprise et même, je pense, la vie en général.
Et là, on est plus sur la dimension team building, sur la dimension B2B, business to business. Ça se passe comment? C'est après? C'est les à côté? Ce sont plutôt les free to play, peut-être les rencontres qui peuvent simplement se faire naturellement?
Alors, c'est-à-dire que nous, maintenant, vraiment déjà dans le programme, sur cette nouvelle édition, parce qu'on écoute énormément nos participants, va y avoir toute la première partie de la soirée qui est dédiée à la rencontre. C'est-à-dire que c'est un apéro networking où les équipes vont défiler les unes après les autres sur scène. Là, l'idée, c'est de mettre un visage sur le prénom et le pseudo, mettre aussi le logo de la boîte, se dire « Ah, ok, telle équipe, c'est telle boîte ». Et puis, il y a 20 à 30 secondes de temps de présentation de l'activité. Et derrière, une équipe, dès qu'elle a fini de se présenter, elle va avoir le droit de convier, défier, clasher, on mettra le mot qu'on veut, une autre équipe à un match improvisé sur le jeu qu'ils veulent. Là, en fait, le principe, c'est que le jeu est devenu un support pour permettre la rencontre. Donc on va l'avoir à ce moment-là, et puis oui, après, nous on est là pour essayer d'initier, notre boulot c'est d'initier cette rencontre, aux gens derrière de prendre le relais, comme ça va être le cas dans tous les clubs business.
Advienne que pourra, les choses se feront telles qu'elles devront se faire. Mathéo, ton regard sur ce type d'événement, cet événement comme il est proposé, le Game and Biz?
Moi je trouve ça très très intéressant, en plus t'as soulevé un point que je trouve intéressant à soulever également, celui du fait que le jeu vidéo est encore aujourd'hui pas mal décrié. C'est vrai que sur Angers, là on a le Angers Geek Fest qui arrive, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'événements marqués autour du jeu vidéo. Donc je trouve ça très intéressant, et moi c'est le déroulement des choses, ce côté aussi, pas forcément que, j'ai utilisé des termes de jeux vidéo, mais de tryhard. On a vraiment ce côté j'arrive, je te défie, et puis advienne ce qu'il en adviendra. Moi je trouve que c'est une initiative très intéressante qui me parle.
D'accord, je croyais qu'il y avait une question. Mais merci Mathéo pour ce regard, en tout cas.
Les questions après.
On va poser les questions après, comme tu dis. On va d'abord faire une pause musicale. Il y a Charlie qui est arrivé pour sa crocro, qui sera dans quelques instants autour de 18h30. Mais avant tout ça, on écoute Les Vagues Bleues de Gessler sur le 101.5 FM de Radio G.
On a bien mérité des vacances, un morceau de soleil blanc dans un bout de ciel bleu. Donc on s'entasse dans une vieille bagnole et on se barre vite vers des eaux sableuses. Il faut s'enfuir loin des autres et loin des averses qui s'acharnent sur les touristes. Le monde est si froid loin des côtes, pour un peu de chaleur on pourrait tout risquer. Y a part celle dans la radio, grand sourire devant les radars. On file vers quelque chose de brillant, on file et on ne s'arrêtera pas. Les yeux rougis, les os salés, le cœur qui bat, les vagues bleues, l'esprit serein, les nuages solitaires. Sous ce soleil, on se sent un peu mieux. Les yeux rougis, les os salés, le cœur qui bat, les vagues bleues, l'esprit serein, les nuages solitaires. Sous ce soleil, on se sent un peu mieux. Déjà le sable s'est invité partout, des morceaux de bord de mer étalés sur le parquet. Jusque tard on se moque de tout le monde, et quelques bouteilles vides se bousculent par terre. Le monde paraît si doux dans ce paysage, on se laisserait presque mourir avec les fleurs. On fredonne doucement de vieilles chansons, on croirait presque toucher le bonheur. Y'a part celle dans la radio, un grand sourire car tout est radieux.
Les vagues bleues de Gessler sur le 101.5 FM de Radio G.
18h10, 19h, Topette sur Radio G.
Et ce soir, on est avec toi, Antoine, un des fondateurs du Game & Biz, le 11 avril, au Centre des Congrès, à Angers. Un événement pour, d'abord, centraliser et fédérer autour d'une passion commune, le jeu vidéo, même plus précisément, on l'a bien compris, Counter-Strike, c'est ça.
C'est ça.
Je connais même pas trop ce jeu, tu peux peut-être nous le présenter un petit peu, nous expliquer c'est quoi le but, c'est du tir, c'est ça hein?
Ouais, c'est du FPS, donc du First Person Shooter. Je tire à la première personne, qui a une particularité, c'est donc de jouer en deux équipes de cinq. C'est vraiment un jeu orienté réseau, pur et dur, ça ne se joue pas en solo. Et on va avoir deux équipes, donc les terroristes et les contre-terroristes, avec pour chaque équipe un objectif simple. Les terroristes, leur boulot, c'est de poser une bombe sur un site, sans se faire tuer, et de la faire exploser surtout. Et les antiterroristes, eux, leur boulot, c'est soit d'éliminer l'équipe adverse avant qu'ils aient eu le temps de poser la bombe, soit de diffuse la bombe, donc de désamorcer la bombe, le tout dans une manche qui dure 2 minutes. Donc c'est un jeu qui va demander cohésion d'équipe et résistance au stress.
Oui, clairement, on est obligé de collaborer, d'être ensemble, ouais. Voilà, que chaque individualité se coordonne bien. Quoi.
C'est ça, il n'y a pas de temps mort, et il faut vraiment être bien coordonné.
Alors, on l'a compris, hein, le rôle, l'idée qu'il y a derrière le Game & Biz, le pourquoi ça existe. Tout à l'heure, on commençait à évoquer l'idée un petit peu qui pourrait être contradictoire avec les évolutions, en tout cas en apparence, des pratiques professionnelles, puisqu'on parlait du télétravail notamment. Les gens ont tendance à moins se voir, du coup, à être plus loin les uns des autres, ou en tout cas de manière dématérialisée. Et paradoxalement, ou pas, on ressent peut-être plus le besoin de se voir aussi, notamment au travers de ce genre d'événement. Qu'est-ce que t'en penses ?
Je pense que c'est une question qui dépasse très largement Game & Biz. Je pense qu'aujourd'hui, ce phénomène du télétravail, il a toujours été présent, hein, ça fait 40 ans que ça existe. On l'a effectivement poussé beaucoup plus loin en mars 2020 parce qu'on y était obligé, hein, il y avait confinement, donc on a déployé ça. Ma pensée personnelle, je suis pas un grand fan moi du télétravail, j'ai besoin de voir des gens, j'ai besoin aussi de moments seuls. Je pense qu'il faut les deux. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont en demande, qui, j'oserais peut-être même dire pour certains, en souffrance de rester en télétravail, et qu'il y a un besoin, effectivement, des gens, on le sent bien, de se rencontrer. Enfin, on voit bien que les festivals sont tous quasiment complets, les concerts, tout est complet. Enfin, on sent bien que les gens, ils ont besoin de sortir de chez eux et de se rencontrer. Et effectivement, nous, on surfe là-dessus. Comme je te disais tout à l'heure, moi l'idée elle m'est venue mars 2020, je suis enfermé dans ma maison, ça va pas, et j'imagine un événement où je pourrais rencontrer du monde, alors qu'à ce moment-là je sais même pas si je vais ressortir un jour de chez moi.
Et tout à l'heure, tu parlais du coup du fait de se voir, de créer des cohésions d'équipe comme ça, de répondre à une demande avec Game & Biz, qui manifestement est présente, puisqu'il y a de plus en plus de monde. Et puis les personnes qui sont là au début ne quittent pas l'aventure, continuent à chaque édition, sont là, de nouveau présentes. À ton avis, c'est des choses qu'on commence à voir de plus en plus au sein des entreprises en elles-mêmes, des solutions un petit peu de team building, de cohésion d'équipe, au travers de passions fédératrices, de passions communes qu'il peut y avoir dans un groupe de travail, par exemple?
Alors, avant nous, c'est un domaine que j'ai pas trop regardé. Ce que je vois, sans vouloir me vanter, c'est qu'on est à peu près les seuls à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Sans même parler du jeu vidéo, mais vraiment de dire, partageons une passion. Il y a beaucoup d'ateliers de team building sur les arts culinaires et compagnie, c'est très bien, mais si tu préfères aller au McDo, c'est pas fédérateur pour deux sous. Nous, c'est vrai qu'on a cette chance d'être sur un des domaines qui est les plus fédérateurs. Justement, je viens de parler de la cuisine. Aujourd'hui, la cuisine est en tête des domaines fédérateurs, suivi juste derrière par le jeu vidéo. Les jeux vidéo, c'est 69% des Français qui disent pratiquer régulièrement le jeu vidéo. Donc effectivement, on pense qu'on est là-dedans, on pense qu'effectivement ça réunit les gens. Je pense pas encore assez, je pense qu'on peut aller encore plus loin. C'est pour ça qu'il y a des idées pour la suite, de comment on peut pousser encore plus loin ce concept.
C'est efficace parce que c'est ponctuel, ou ça pourrait être quelque chose d'ancré justement dans le quotidien? Alors on parle du jeu vidéo, hein, précisément, mais toutes les semaines, tous les mardis matin à 11h dans l'équipe, on se fait une partie de Counter-Strike par exemple entre collègues, ou alors c'est justement la rareté qui fait que ça permet d'avoir un impact aussi positif sur les équipes, et puis de le préserver sur plusieurs semaines, plusieurs mois derrière.
Je pense que c'est un mix des deux. Nous, effectivement, on va cultiver une certaine rareté. Je te dirais en rigolant, peut-être par feignantise, hein, c'est-à-dire bouger deux tonnes de matos, on va pas le faire tous les matins. Mais effectivement, moi, je sais demain si je dois, parce que j'ai une autre structure à côté qui commence à embaucher. Oui, je pense que le jeu vidéo, il en fera partie. C'est évident. C'est évident parce que c'est partagé, c'est intergénérationnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on joue de 5 à 70 ans. Mon papa, il a 68 ans, il joue. Alors, il joue beaucoup moins, mais il fait déjà partie de cette génération qui a connu le jeu vidéo et pas que Pong. Quant à mes filles qui ont 11 et 14 ans, alors là, c'est évident.
C'est naturel.
Oui, trop. Parfois, il faut limiter un peu. C'est Zelda, c'est bien, mais une fois le temps, il faut aller voir aussi la vie réelle.
C'est des événements où il n'y a pas de jeux vidéo qu'il faudrait créer, du coup, à l'inverse, peut-être.
Ce serait, oui, pour la jeune génération, ça peut être un peu ça. Mais du coup, tout ça aussi amène à des réflexions, de se dire demain, comment je pourrais, quel événement je pourrais imaginer qui partirait des enfants jusqu'au seigneur.
Mathéo, tu avais une question tout à l'heure qui avait l'air assez intéressante. Tu nous l'as bien teasée, c'est le moment.
Ouais, moi j'avais une question tout à l'heure. Tu as utilisé le terme de LAN. Moi, c'est un terme que je trouve très intéressant parce que tu as dit que ça parlait aux plus anciennes générations, ce qui est vrai, mais ça parle aussi aux nouvelles. Moi, par exemple, c'est le terme que je pourrais utiliser pour des compétitions d'e-sport. Donc, je voulais savoir justement, est-ce que l'objectif, à travers ce terme, l'utilisation de ce terme, ce serait pas de parler à toutes les générations, donc de pas parler à un âge, mais plus parler à entre guillemets un secteur, ceux des fans de jeux vidéo, donc. Et voilà, c'était ma question, savoir si l'objectif c'était de fédérer juste autour du sujet, sans limite d'âge.
C'est exactement ça. La vraie difficulté, elle est que toutes les générations ne jouent pas au même jeu. Toi, peut-être que tu joues à Counter-Strike, mais qui va être plutôt du ce qu'on va appeler le CSGO, donc Counter-Strike Global Offensive, voire CS2 qui est sorti dernièrement. C'est vrai que nous, pour Game & Biz, on joue à CS 1.6 parce qu'on a ce côté rétro, nostalgie. Mais on sait bien qu'à un moment, il va falloir mettre d'autres choses. On a très envie, moi j'ai très envie d'avoir des vingtenaires qui viennent. Mais effectivement, les vingtenaires, il va plus falloir que je leur parle sur du League of Legends, sur du Valorant. Mais du coup, ça parle pas forcément au Quadra. Donc aujourd'hui, on réfléchit...
T'arrives à faire ce mix global
Pour le moment, on n'y arrive pas assez bien à mon goût. Mais on va y arriver parce qu'on en a l'envie. Nous, ce qu'on veut, c'est réunir des gens. Et je veux pas réunir des gens qui ont 30 ans ou des gens qui ont 40 ans. Je veux réunir des gens. Point.
Le jeu vidéo a un élément indissociable maintenant du patrimoine culturel. C'est un élément culturel. On va continuer à en parler tout à l'heure du Game & Biz. Mais avant tout ça, voici l'heure venue de la crocro de Charlie qui, on l'espère cette fois-là, ne sera pas trop piquante.
Ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter...
La croco, la chronique de Charlie.
En voiture, Simone !
Non mais sérieux ? La croco, la chronique de Charlie.
J'adore le houlaou !
Ironique, absurde, réfléchis. La croco, la chronique de Charlie.
J'ai mangé une méduse.
Survolté, décalé, déjanté, la fofo, la folie de Charlie.
Oui, c'est bien moi, je suis toujours là. Il y a 2 semaines, ma crocro n'a pas eu lieu. Et là, je tiens à remercier pour tous les messages que j'ai reçus. Quelle fut ma surprise de voir des milliers de fans inonder les réseaux sociaux dans une avalanche de messages d'inquiétude devant ce terrible vide. Beaucoup ont vécu des symptômes de manque aigu conduisant à l'engorgement du CHU. Il y a eu une vague de lamentations à Angers qu'on a pu entendre jusqu'en Vendée. La presse s'est emballée et même Christophe Verchère s'en est ému. Évidemment, les spéculations ont fusé. Il est allé trop loin, Pierre Benoît, l'animateur PDG, l'a viré, comme il l'a souvent évoqué d'ailleurs. Tout cela à cause d'une blague un peu limite sur les bouchers israéliens. En fait, non. De tout cela, rien. Mon absence n'a créé aucun remous. Tout le monde s'en tamponne de ma chronique. Ça m'a remis devant le vide de mon existence parfaitement inutile. Seul Pierre Benoît a été déçu de ne pas recevoir ses vannes habituelles. Cette petite fessée radiophonique qu'il adore et attend avec impatience.
Ouch.
Et pour lui faire plaisir, je repars sur l'actualité internationale. Car Pierre Benoît me disait en aparté qu'il en a ras le pompon de l'actu locale, que ce soit Mathéo et ses vieilleries de patrimoine ou Nolwenn et ses chiens écrasés. Il en peut plus, notre bébé, il veut de la vraie agitation. Et ça tombe bien, vu que tout le monde se fout de mes chroniques, je cherche à me faire virer. Alors, oui, pour partir avec panache. Et quoi de plus approprié que de remettre une couche sur Israël ? Sueur froide de Pierre Benoît.
C'est pas bien.
Allez, on repart au Proche-Orient avec la compagnie Hamas Voyage pour rejoindre la fête foraine. Et puis les JO, hein, on a dit aux Russes, bon, vous venez, mais vous jouez sous drapeau neutre. Pour Israël, non, aucun problème, venez donc, mais vous jouez sous drapeau propre. Donc merci d'enlever les taches de sang. Pour la Palestine, vous jouez pas, hein, vous pouvez pas hisser de drapeau, vous n'avez pas d'État. Pas d'État, pas de chocolat. Non, mais je dis ça, mais en vrai c'est faux, car au JO de Tokyo en 2020, il y avait 5 athlètes palestiniens, wouhou, qui ont d'ailleurs réussi à éviter les javelots israéliens. Et pour Paris, les Palestiniens misent maintenant sur les Jeux paralympiques. Enfin, s'ils survivent, d'ici là. Allez, je termine sur une blague sur les Juifs. Mais si, Pierre Benoît, tu vas voir, c'est réfléchi. J'envoie un pavé dans la mare médiatique. Demain, Libération titre, le Guillaume Meurice angevin va trop loin. Les caméras et micros parisiens débarquent à Angers. La France découvre Pierre Benoît et Radio G, les audiences explosent. Moi, main sur le cœur, je déclare que Pierre Benoît ne savait rien, que jamais, au grand jamais, je n'ai repris ses blagues nazies, que je trouvais un peu trash d'ailleurs. Toutes mes précédentes chroniques sont alors prises d'assaut, tel un hôpital palestinien, et l'on me fait signer sur France Inter. Angers fait les gros titres, Radio G est propulsé, ma carrière décolle, mon existence n'aura pas été vaine.
La croco, ironique, absurde, réfléchie, survoltée, décalée, déjantée, la chronique de Charlie.
Et ben voilà, Charlie, t'auras un petit peu de montage à faire pour la peine. Dis donc, on le reverra dans peut-être, je sais pas, peut-être qu'on le reverra pas, Charlie. La croco de Charlie, en tout cas, sont retrouvés si vous les aimez sur l'onglet Podcast Plus du site internet de Radio G. On repart avec toi, Mathéo, pour s'intéresser aux rayonnantes. On va faire un petit peu de trek dans le désert.
Les Rayonnantes, une jeune association angevine, se lance dans un gros projet, celui du Rose Trip. Pour remettre un petit peu de contexte, le Rose Trip, c'est une randonnée d'aventure et d'orientation solidaire uniquement féminine qui aura lieu au Maroc du 31 octobre au 5 novembre. Lutter contre le cancer du sein, c'est ce pourquoi se battent toutes ces femmes. Pouvoir y participer, couvrir les frais d'une telle aventure. Une marche est entre autres organisée le 10 mars. Avec nous par téléphone, Patricia Kerlock, présidente de l'association des Rayonnantes. Bonsoir Patricia.
Bonsoir à vous.
Alors déjà,
merci
je vais
de nous accueillir.
Eh ben merci de répondre à nos questions. Déjà, je vais vous laisser nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que cette association Les Rayonnantes.
Les Rayonnantes, c'est 3 personnes, Florence, Sonia et moi, qui et nous sommes rencontrés sur notre lieu de travail, d'où les rayonnantes, puisque nous étions toutes les trois manipulatrices en radiothérapie à l'Institut de cancérologie de l'Ouest à Angers. Depuis, chacune a pris un petit peu son chemin. Florence est devenue accompagnatrice en santé et relaxologue. Sonia est devenue cadre de santé. Moi-même, je suis donc toujours dans le service de radiothérapie. Et un jour par semaine, je fais ce qu'on appelle la dermopigmentation. Donc, je tatoue les aréoles des seins des dames qui ont été reconstruites.
Pour vous, c'était un petit peu un devoir en tant que personne travaillant à l'ICO de réaliser une association pour lutter contre le cancer du sein.
Nous sentons concernés en tant que professionnels, mais aussi également et surtout en tant que femme, mère de famille.
L'Eurostrip, alors je l'ai survolé dans les grandes lignes tout à l'heure, c'est donc un trek pendant ces 5 jours. Qu'est-ce qu'on y fait globalement?
Sur les 5 jours, il y a 3 jours d'orientation. En fait, c'est une marche d'orientation. Donc, le but, chacune dans sa catégorie, il y a 3 catégories différentes. Donc, selon celle qu'on choisit, le nombre de kilomètres peut être différent selon la journée. Donc nous sommes mises dans une catégorie donc qui compte 16 à 18 kilomètres de marche par jour. L'orientation, le but est en fait de faire le moins de kilomètres possible dans la journée, tout en validant un certain nombre de balises.
Comment ça fonctionne concrètement? Parce que du coup, c'est de l'orientation. Vous êtes avec une petite boussole lâchée dans la nature, comme ça?
C'est un peu ça, pas tout à fait lâchée dans la nature, puisque nous aurons sur nous ce qu'on appelle un trépied, donc une balise GPS. Nous n'aurons pas de GPS pour nous aider. Nous aurons une boussole, un rapporteur topographique et des balises à valider. Donc, soit des balises physiques ou des balises virtuelles par lesquelles nous devons systématiquement passer dans la journée. Le but est d'être le plus efficace possible, en fait.
C'est quoi l'objectif de fond derrière cette marche? Enfin, on le sait, c'est bien évidemment de lutter contre le cancer du sein, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche?
En validant, en fait, notre participation au TREC, la société donc, qui le propose prévoit une certaine somme par association. Elle va délivrer donc une certaine somme pour chaque association pour laquelle elle s'engage. Nous, de notre côté, le but est de récupérer ces sommes-là, d'en gagner d'autres si possible et de choisir les associations pour lesquelles on veut s'engager.
Vous allez là-bas en tant que professionnelle, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure, en tant que femme aussi, mais est-ce que vous y allez également en tant que femme angevine?
Nous y allons surtout en tant que femme angevine. Le fait que nous nous soyons rencontrées sur notre lieu de travail, n'est pas du tout une obligation. Notre entreprise nous supporte en nous donnant une certaine somme d'argent. Mais nous, en tout cas, nous nous engageons, puisque nous sommes bien implantés dans le territoire, chacune vit dans Angers ou la périphérie. Notre but, en effet, est de promouvoir, en fait, ce projet localement en proposant des événements pour permettre de financer le projet et de parler de nos actions.
Dans le Rose Trip, tout l'argent récolté sera reversé aux associations Ruban Rose et Enfants du Désert. Est-ce que vous travaillez un petit peu déjà avec ces associations, vous?
Au quotidien, donc pas forcément. Après, l'entreprise ICO, de toute façon, est amenée à travailler avec les associations Ruban Rose. Enfants du Désert, c'est vraiment par cette aventure qu'on la découvre.
Pour pouvoir réaliser cette aventure, le 10 mars, il y aura une marche solidaire au profit de ces associations également. À quoi ressemblera cette journée?
Dimanche prochain, donc nous proposons cette marche qui est accessible pour un plus grand nombre d'entre nous, donc enfants, adultes. Le rendez-vous est au niveau du Héron Carré. Soit il y a 2 parcours, donc un parcours de 6,5 km, un parcours d'un petit peu plus de 8 km autour du lac de Maine. Le départ est autonome, nous aurons un stand au départ. La marche est autonome, donc chacun arrive entre 9h30 et 11h à l'heure qui lui convient. Et puis, nous nous proposons un ravitaillement et nous expliquons quelle est notre association, quel est le but de cette activité. Voilà.
Justement, l'argent récolté, elle va servir à quoi? Après, elle va aller dans des associations, elle va servir également à pouvoir réaliser ce projet du Roastrip.
Tout à fait. Pour l'instant, nous sommes dans l'élaboration du projet. Donc, ce projet, il coûte 1 690 € par personne d'engagement. Donc, notre but est de récupérer déjà cette somme pour pouvoir partir. Et puis, plus si possible, tout, en tout cas, sera redispatché sur les associations pour lesquelles nous nous sommes engagés.
Pourquoi avoir choisi la marche? C'est quoi les points positifs concrètement de cette activité?
Alors, dans une démarche éco-responsable, ça nous parle, la marche, le vélo, les activités pédestres, ou enfin en tout cas plutôt éco-responsables, voilà, c'était important pour nous. Et la marche, bah, qu'elle soit le plus accessible à tous.
C'est peut-être une petite mise en jambe aussi, j'imagine, par rapport au Roastrip.
C'est ça aussi, c'est ça. Nous aurons un bon travail d'apprentissage de l'orientation et puis un entraînement de marche à mettre en œuvre pour être le plus efficace possible au mois d'octobre prochain.
J'imagine qu'il y a également un objectif de sensibilisation derrière cette journée. C'est important pour vous de pouvoir vous adresser aux plus jeunes également?
L'important, c'est de sensibiliser le plus grand nombre de personnes, puisque une femme qui est touchée par un cancer du sein, c'est pas que elle, c'est toute la famille qui s'engage dans un combat. Donc, ça touche la personne et son entourage.
Vous êtes en plein dedans. Pour vous, l'aide humanitaire, à l'heure actuelle, ça représente quoi? C'est une question un petit peu plus générale, mais qui m'intéresse.
L'aide humanitaire, c'est le vivre ensemble, c'est partager, ne pas laisser les gens seuls dans leur vie, dans les aléas de leur vie. C'est l'accompagnement en général.
Et est-ce que vous trouvez qu'Angers est une ville qui aide entre autres, vos projets, mais peut-être via d'autres associations qui aident justement à l'international?
Je ne connais pas toutes les associations. Je vis, mais je pense que le fait d'entreprendre des activités, de s'engager dans des associations, c'est ce qui permet de tirer les gens vers le haut, de sortir de ces zones de confort et puis de faire le lien, entre les gens.
C'est très important.
Ça vient aussi de chacun, c'est le rôle de chacun aussi de choisir de s'engager à petite ou grande échelle.
Pour vous, c'est un devoir quasiment, en fait?
C'est pas un devoir, c'est une envie, c'est sortir de sa zone de confort, c'est rajouter du lien dans la vie.
Et vous semblez le faire avec brio. Patricia, cet entretien touche bientôt à sa fin. Avant cela, est-ce qu'il y a des informations, peut-être des actualités qui viendront après, que vous n'avez pas pu aborder et dont vous aimeriez nous parler?
Tout à fait. Alors, nous commençons à remplir notre agenda d'événements pour 2024. Donc, dimanche prochain, en effet, il y a cette randonnée autour du lac de Maine, donc dimanche 10 mars. Ensuite, le mercredi 3 avril, nous faisons une vente pour des produits éco-responsables H2O Atome, puisqu'une collaboratrice nous a proposé en fait de nous reverser les sommes qu'elle va toucher lors de cette vente et sa commission. Donc, si certains sont intéressés, qu'ils n'hésitent pas à aller sur notre page Facebook ou à nous contacter. Ensuite, le samedi 15 juin, nous proposerons un rallye sur Angers, un rallye urbain. Le 29 septembre, un concert de gospel. le 6 octobre, un loto. Bref, nous sommes en train d'aménager, de proposer un maximum d'activités afin de nous permettre de pouvoir apporter le plus d'argent possible pour les associations pour lesquelles nous nous engageons.
Eh ben c'est tout ça est génial. Avec nous, c'était Patricia Kerlock, présidente de l'association Les Rayonnantes, qui organise donc une marche solidaire le 10 mars prochain. Le rendez-vous, je vais redonner un petit peu toutes les informations, c'est à 9h30, enfin c'est entre 9h30 et 11h au parc Balzac, deux parcours balisés de 6 et 8,5 km. C'est gratuit pour les moins de 12 ans, comptez 6 euros si vous êtes plus âgé, le tout sera reversé afin de lutter contre le cancer du sein. Pour les soutenir dans les grands projets qui arrivent, le Rose Trip au Maroc, entre autres, vous pouvez vous rendre sur leurs réseaux sociaux et leur page Hello Asso. Merci Patricia d'avoir pris ce temps.
Un grand merci à vous.
Eh bien, merci beaucoup, Mathéo, pour cette belle interview qu'on peut retrouver sur le site internet de la radio.
C'est ça, dans la rubrique Topette Plus, comme d'habitude.
Avec l'ensemble des autres chroniques,
exactement, qui que des fois on sort du placard un petit peu comme on l'a fait là, mais bon, c'est des sujets importants, donc c'est avec plaisir.
Et en plus, il y a des exclusivités aussi, des choses qu'on n'a pas entendues à l'antenne qui
exactement,
sont présentes.
Tu veux que je le dise?
Bah, dis-le.
Eh ben, on a mis une interview que j'ai réalisée aujourd'hui avec Cointreau, voilà.
Ah, c'est ça, je sais pas ce que tu voulais dire.
Eh ben, j'allais dire ça, justement, qu'on passera la semaine prochaine en radio, mais qui est déjà disponible dans le site. Voilà.
Alors, revenons à nos moutons avec toi, Antoine, toujours pour le Game & Biz le 11 avril. Alors, on en a beaucoup parlé puisque tu étais là pour ça, bien évidemment. C'est pas ouvert au grand public, on est bien d'accord. Il faut s'être inscrit au préalable. Il faut être une entreprise pour, en fait, y participer.
C'est ça. L'idée, c'est de faire venir une entreprise avec une équipe de 5 personnes. Idéalement, le dirigeant et puis ses collaborateurs.
Et du coup, est-ce qu'il est encore temps de s'inscrire si on est une entreprise, si on est dirigeant, si on est collaborateur?
Alors, si je regarde mon fichier Excel, je te dirais dans mes prévisions, ça y est, je suis à 100%. Maintenant, oui, il reste encore dans les faits. On a des promesses qui ne sont pas encore validées. On a encore la place pour 4 équipes de 5. C'est-à-dire que là, on est à 80%. Il nous reste 4 équipes qui sont annoncées, mais s'annoncer ne veut pas dire qu'on vient.
Ben, on est 5 à la radio, ben voilà.
Et c'est justement ce que j'allais dire. Est-ce que Pierre Benoît, le fameux animateur PDG, son nom Charlie, peut venir avec ses 150 bénévoles de la radio? On peut venir?
150, ça fait beaucoup, du coup.
Non, mais nous, on peut, oui.
Si, 5, pour répondre de manière très pragmatique, on a deux types de billets. On a ce qu'on appelle le pack team. Donc, c'est l'inscription de 5 joueurs. Il y a accès au networking, au tournoi, et puis aux pizzas et aux bières. Pizza qu'on va prendre chez Francescini, parce que c'est la meilleure. Et pain rose, parce qu'elles sont super bonnes et elles sont bio. Et à côté de ça, pour ceux qui ont envie d'amener leurs supporters, on a inventé la place spectateur, qui va donner, en fait, accès à toute la soirée. Juste pas accès au tournoi, c'est-à-dire que les personnes n'ont pas de PC dédié. Mais c'est possible.
Je sais pas toi, Pierre Benoît, mais moi ça me donne bien envie. Hein.
Ah bah oui, mais moi depuis le début.
J'ai envie de vous dire, et on a 2500 m², on a tout le sous-sol du centre des congrès, donc il y a de la place. Hein.
Bon bah voilà, l'invitation, c'est offert là du coup pour nous, non
Je peux en offrir une ou deux après, je suis quand même commerçant, il faut que j'aie ma vie. Hein.
Voilà, et bien justement, en plus sérieusement, en deux minutes avant de se quitter quand même, Antoine, sur le reste de tes activités, est-ce qu'on peut parler de, alors Digi Help ou pas, ton autre entreprise, d'un mot hein, simplement sur ce que tu fais à côté, et puis tu expliquais aussi que ça se développait pas mal en ce moment.
Alors DigiHelp, notre principe de base, c'est d'essayer de digitaliser les appels secours. On part d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, je suis sur la route, je veux signaler la présence des flics, ça me prend 5 secondes avec mon Waze. Mais quand j'ai besoin de ces mêmes personnes, c'est un téléphone et 15 minutes au téléphone. On se dit que c'est pas bon. Donc la première chose, c'est comment on réduit ce temps-là à rien, vraiment au minimum, en donnant une information peut-être encore plus précise, parce que le téléphone pose beaucoup de soucis, hein, d'écrire une adresse, c'est source d'erreur. Là, on va vraiment utiliser un point GPS. Derrière tout ça, on va garantir de la souveraineté et de la conformité RGPD, c'est-à-dire que nous, 100% de nos données sont en France. On ne fait pas appel à des opérateurs qui dépendent d'un droit autre que le droit français ou à minima européen. En prime, toutes nos données, on peut garantir qu'elles sont hébergées en France. Et puis la dernière chose qu'on va mettre autour de ça, c'est qu'en fait, nous, ce dont on rêve, c'est qu'en fait les gens puissent être acteurs de leur sécurité et puis de celle de leurs proches, mais dans une démarche citoyenne et surtout pas milicienne. Parce qu'on pense que tout ça à terme aussi doit permettre d'apaiser un petit peu les relations entre les citoyens et les gens qui sont là pour les protéger. C'est pas un secret aujourd'hui, on n'arrive plus à se parler. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'on se reparle, parce qu'à un moment, c'est le vivre ensemble qui garantira cette fameuse sécurité et tout. C'est un point chez moi que tu retrouveras dans tous mes différents projets. Il y a cette question de vivre ensemble.
Eh bah, ben, tu viendras en reparler si tu le veux bien. 10 plaisir. Secondes peut-être pour les infos pratiques sur Game & Biz. Vraiment 10 secondes. Site internet.
Le gameandbiz.fr, gamenbiz.fr. Le jeudi 11 avril au centre des congrès dès 18h.
Tout simplement. Merci beaucoup Antoine. Et merci puis on vous. Se retrouve demain à 18h10. Prenez soin de vous. Topette. On se quitte avec Pensée Topette. Locale. Ciao.
Salut.
Pensée Locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
On a un parfum vanille tonka qui sort franchement de l'ordinaire. Très, très peu de sucre. Vanille plus la fève tonka, ça fait vraiment un parfum que je trouve sublime, qui s'accompagne avec tout, gâteau au chocolat, des fruits frais, etc.
François est un des deux créateurs des Garçons Glaciers. Garçons Glaciers, une aventure de fabrication de glace artisanale. Plusieurs mots d'ordre, bio, local, gourmandise et surtout authenticité des saveurs. Sur les marchés, à l'occasion d'événements, avec leur vélo glaciaire ou le Piaggio, François et Manuel se font porte-parole des saveurs retrouvées. Un lien indiscutable les unit au territoire angevin. François Blourde nous fait la visite des coulisses de la fabrication.
Donc ici, on est place Lafayette à Angers, en plein cœur du centre-ville d'Angers, derrière la gare, près du commissariat. On est dans le laboratoire de fabrication, donc qui n'est pas un espace dédié au commerce, mais bien à la fabrication, même si du lundi au samedi, on est ouvert au public. Et donc là, nous sommes sur la réserve de stockage, où on stocke nos fruits secs, le miel, toutes nos épices, etc. Et donc juste sur notre gauche, on a vraiment le laboratoire de transformation, là où on élabore les purées de fruits, là où on prépare les mix et là où on turbine et conditionne la glace.
Et comment est venue l'idée de faire de la glace à Angers ?
Alors, très bonne question. L'idée de faire de la glace, moi, c'était par rapport à mon passé professionnel. En l'occurrence, la position que j'avais à l'époque, c'était de monter des laboratoires pour les boulangers, les pâtissiers, les glaciers, les chocolatiers. Et il se trouve qu'à l'époque, on n'avait pas de glacier à Angers. Et j'ai trouvé ça... je trouvais que c'était déjà d'une dommage qu'il n'y ait pas de glacier à Angers. Et donc, du coup, ça voulait dire qu'il y avait une place à prendre. Et ça, c'était il y a 6 ans. Et depuis maintenant, on est plusieurs. Ce qui permet de créer un marché et d'avoir un référentiel qui est un petit peu différent. Les gens peuvent comparer un petit peu la démarche qu'on appelle conventionnelle ou celle qui est la nôtre, c'est-à-dire issue de l'agriculture biologique avec un cahier des charges de qualité, etc.
Donc c'est une action locale. Comment tu fais pour avoir tous tes composants de glace, les fruits, localement ?
Ben, c'est quelque chose qui nous a pris beaucoup de temps à la création de l'entreprise, de faire un sourcing des paysans bio qui allaient accepter notre démarche de qualité, c'est-à-dire de laisser mûrir les fruits dans les arbres. Mais pour autant, pour nous, d'avoir des fruits à maturité, c'est des fruits avec beaucoup plus de sucre, avec du goût, de l'odeur. Et pour le produit transformé, ça fait vraiment toute la différence. Donc l'enjeu, il a vraiment été là-dessus, de les convaincre, de nous accompagner et de rentrer dans notre démarche de qualité.
Là, je suis en train de préparer, je découpe les suprêmes de citron pour préparer la purée de fruits citron.
Augustin, en stage avec François, coupe du citron. En formation, il a choisi les Garçons Glaciers pour leur valeur et leur éthique.
Je pense que c'est hyper important parce qu'on est dans une société où de plus en plus les gens s'informent sur ce qu'ils consomment. Et donc, c'est hyper important de s'approvisionner convenablement et de manière locale.
Premier point qui change vraiment les choses... Nous, on s'est monté au mois de juin et au moment du mois d'août, c'était l'époque des Reines Claude. Et il se trouve qu'à ce moment-là, on a transformé des denrées donc locales, des Reines Claude, et on a offert aux Angevins, même plus largement, à notre clientèle, un sorbet plein fruit à la Reine Claude. C'est quelque chose qui, à l'époque, n'existait pas. Je ne vais pas dire qu'on était les premiers à le faire, mais en tout cas, sur nos latitudes, c'est sûr que les gens n'avaient pas mangé de sorbet Reine Claude. Et... Les Angevins sont chauvins et ça nous a vachement rendu service parce que là du coup ils ont vraiment compris la preuve par l'exemple que ça allait être une jolie aventure parce qu'on allait transformer des denrées locales et qu'en plus ça allait être délicieux. Donc là je crois que vraiment à partir de ce point là on a conquis le public, on a trouvé notre clientèle et ensuite ça n'a fait que d'aller dans ce sens là puisqu'on s'est mis à développer des poires qui étaient sur nos latitudes, les kiwis d'Anjou, les gens, même on a une certaine mission éducative puisque les gens n'avaient pas forcément conscience qu'on avait des kiwis qui poussaient sur notre territoire, etc. Donc ça a été de plus en plus dynamique à ce niveau-là.
Avec leur saveur authentique, les garçons glaciers ont su conquérir le public. Toujours prêts à échanger sur l'agriculture bioresponsable, rencontrez-les sur les marchés. C'est facile de les reconnaître, un Piaggio et un triporteur aux couleurs de la glacerie, bleue et blanche. Ou tout simplement sur lesgarçonsglaciers.fr.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire. 101.5.